Salut les amis, bienvenue sur Paris O'Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisoclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode de mon podcast. Ici, nous parlons principalement de sujets liés à la culture française, mais aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode interview. J'ai un invité avec moi, Romain. Romain est français et il enseigne le français. Il s'est inspiré d'une expérience personnelle au Japon pour développer une super méthode pour enseigner le français. Et il va nous expliquer en quoi ça consiste. Restez bien avec nous, parce que Romain va nous donner plein de conseils super utiles pour apprendre le français et rester motivé. Allez, c'est parti! Salut Romain!
Salut Aurélie!
Ça va?
Ça va et toi?
Super, ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là avec toi et de pouvoir faire partager la méthode Bankai. Je m'appelle Romain, j'ai 28 ans, je suis né dans la région bordelaise, mais je suis bien plus qu'un simple bordelais. Je me définis comme un homme du monde parce que j'ai vécu à l'étranger, au Japon, à Taïwan, aux États-Unis, et toutes ces expériences ont fait de moi un homme différent. J'ai appris de chaque culture, j'ai appris de chaque personne que j'ai rencontrée et j'ai appris des langues nouvelles.
Super!
Ouais, les voyages, c'est génial.
Et j'imagine que c'était pour tes études ou pour le travail que tu es parti à l'étranger?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, alors de base, j'ai fait des études d'économie et de droit à l'université de Bordeaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une année d'échange au Japon pour ma troisième année de licence. Donc là, j'ai pu découvrir une culture qui est complètement différente et qui m'a énormément appris. Et j'ai tellement adoré l'Asie que j'y suis resté pour faire un master. Et là où j'ai un parcours différent des professeurs classiques, c'est que je n'ai pas fait des études d'enseignement. J'ai fait des études sur le développement des ressources humaines. Donc c'était vraiment le master que j'ai fait à Taïwan. Et c'était hyper intéressant, puisqu'en fait, la réflexion, c'était de se dire, on a un employé dans l'entreprise. Cet employé, il travaille bien. Cet employé, il veut grandir dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner cette personne pour qu'elle se développe personnellement, qu'elle y trouve vraiment un sens de satisfaction au travail, tout en évoluant personnellement? Donc, c'était vraiment hyper intéressant comme master.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton expérience au Japon? Parce que je crois que c'est justement là-bas que tu as développé cette méthode, la méthode Bankai, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu étais parti au Japon et comment ça s'est passé là-bas pour toi?
Pourquoi le Japon? C'est relativement simple. Quand j'avais 15-16 ans, donc, j'ai eu mon premier ordinateur portable. De base, c'était censé m'aider pour les cours.
Ouais.
Tu vois là où je veux en venir.
Ouais.
Sauf qu'avec un ordinateur portable, j'ai découvert que je pouvais faire d'autres choses que travailler mes cours. Donc, j'ai découvert les animés. C'est la version animation des mangas qui sont bien connus au Japon. En commençant à regarder des animés, j'ai du coup découvert une nouvelle langue, puisque je l'ai regardée en version originale. Et enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si tu veux, j'ai de suite su que le japonais, c'était fait pour moi, que ça m'attirait. Il y avait vraiment quelque chose de poétique quand j'entendais les personnages parler en japonais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au Japon à ce moment-là. J'ai continué mes études. En France, on a le baccalauréat. Bon, moi, j'ai passé mon bac quand j'avais 18 ans. Je l'ai obtenu, j'étais très content. Et je me souviens, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit « Papa, maman, j'ai eu mon bac, je vais fêter ça, je pars au Japon.
» Super ! Et tu voulais partir en vacances ou pour une longue période ?
Non, là, à ce moment-là, c'était vraiment histoire de découvrir le pays.
Mmh, d'accord.
Je suis parti pour un voyage de 3 semaines. Et j'ai voyagé sud jusqu'à Tokyo. Et je suis tombé amoureux du pays par ses traditions, par ses coutumes mm-hmm. différentes, par sa nourriture qui est complètement différente de mm-hmm. tout ce qu'on peut avoir ici en France. Et je me suis dit, Romain, c'est quand même bien le Japon. Il faut vraiment que tu arrives à y revenir. Et donc, j'ai fait tout mon possible pour aller faire mes études là-bas.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu parlais déjà japonais ?
Très bonne question. La réponse est pas du tout. En fait, si tu veux, j'avais appris les bases avant d'aller au Japon en voyage. Donc, je savais dire bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis en vacances et j'aimerais une bière, s'il vous plaît.
C'est bien déjà, quand même. C'est quand même pas mal.
Ouais, c'est vraiment la base, on va dire, du touriste. Mais j'ai appris, si tu veux, les phrases par cœur. J'ai pas réfléchi à qu'est-ce qu'il y avait derrière. J'ai vraiment fait du par cœur. Par contre, quand j'y suis retourné pour mes études, Aurélie, j'ai vite compris que comme j'étais dans une petite ville, entre guillemets, j'étais à Fukuoka, qui a 1 million d'habitants, mais c'est pas Tokyo, c'est pas Osaka, les gens ne parlaient pas du tout anglais. Donc, il a fallu que j'apprenne le japonais sur place très rapidement si je voulais pouvoir rencontrer des gens et si je voulais pouvoir m'exprimer et vivre une vie normale au Japon, tout simplement.
Parce que là, tu partais pour combien de temps à Fukuoka ?
Ouais, je partais pour 1 an. Je faisais ma licence 3 en année d'échange.
Tes cours là-bas étaient en japonais déjà, tes cours de licence ?
Non, bien heureusement, sinon je n'aurais jamais validé
difficile.
Ma licence.
Oui, c'est ce que je me demandais. C'était en anglais peut-être.
Oui, c'est ça, les cours étaient en anglais. J'étais dans un programme international. On avait donc ce tronc commun de cours. Et à côté de ça, on avait des petits cours de japonais où on était classé par niveau. Moi, ça m'a de suite posé un problème puisque leur classification par niveau, pour moi, n'était pas représentative de la réalité du niveau de chacun. Je m'explique. En japonais, tu as bien entendu une partie orale, mais tu as aussi une partie écrite qui est bien différente, puisque comme tu sais, il y a des signes, les kanji. En fait, ils faisaient un mix entre ta partie orale et ta partie kanji, et en fonction des résultats que tu avais, peu importe si tu étais très bon en oral et très mauvais en kanji, si tu étais très mauvais en kanji, on te mettait dans le plus bas niveau, même si tu pouvais parler.
D'accord.
Donc, je me suis retrouvé confronté, si tu veux, au fait que j'étais dans un groupe où on apprenait à se présenter et où il nous aurait fallu 6 mois pour avoir la plus simple des conversations. Mmh. Et sachant que mon expérience au Japon était limitée, je me suis demandé comment faire pour améliorer mon japonais plus vite. Mmh. Et c'est vraiment, si tu veux, à partir de ce moment-là que la méthode Mankai est née. Mmh. Et elle est née dans un premier temps pour m'aider à moi.
D'accord. Et alors concrètement, comment tu as fait pour accélérer un peu l'apprentissage du japonais ?
En fait, c'est très simple. Le japonais m'a aidé dans ce sens, puisque c'est une langue qui est complètement différente. Si tu veux, pour bien comprendre comment on en est arrivé à développer cette méthode Mankai, il faut comprendre d'abord la structure du japonais. Le japonais, c'est une langue qui est très directe. C'est-à-dire qu'en japonais, tu vas pas avoir de masculin, de féminin, tu as très peu d'articles qui servent à faire de liaison, etc.
Je pense que toutes les personnes qui apprennent le français, ils doivent se dire « Oh bah, qu'est-ce que ça doit être plus facile, le japonais que le français ? Pas de féminin, masculin, pas d'articles. » Bon, il y a d'autres difficultés, bien sûr.
Ouais, voilà, on se dirait ça, mais en fait, le japonais, il a une autre particularité, c'est-à-dire que la structure des phrases est complètement différente. Le verbe vient à la fin des phrases. Et le problème dans ça, si tu veux Aurélie, c'est que quand tu grandis en apprenant une langue et que tu connais l'action au début de la phrase, tu sais toujours ce qui se passe. Alors que quand tu commences à apprendre le japonais, tu écoutes quelqu'un parler, mais tu ne sais jamais concrètement ce qu'il fait avant la fin de la phrase. Du coup, tu es obligé de, si tu veux, reformater, reconditionner ton cerveau pour pouvoir comprendre cette phrase dans sa globalité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé, j'ai regardé la structure des phrases et en fait, je l'ai décomposée en petites phrases. J'ai essayé de simplifier tout ce qui pouvait être dit en japonais pour pouvoir mieux le retenir. Donc en fait, on imagine que j'ai pris un arbre avec des branches et les branches ne me permettaient pas de voir le tronc parce qu'il y en avait trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les branches pour voir le tronc et une fois que j'ai vu le tronc de l'arbre, petit à petit, j'ai commencé à remettre les branches à droite, à gauche et à apprendre avec cette méthode, petit à petit, en utilisant vraiment la base que je comprenais.
D'accord, donc c'est finalement simplifié pour après ajouter des éléments de plus en plus compliqués, mais commencer par une structure de phrase la plus simple possible.
C'est ça. Par contre, il y a un autre problème, c'est qu'au Japon, les gens sont très respectueux. Et c'est pas un problème en soi, au contraire, c'est génial. Là où ça devient un problème, c'est quand tu t'exprimes et que tu fais des fautes, les gens ne te corrigent pas.
Ah oui.
Ça devient très vite compliqué de savoir si ce que tu dis est juste ou si ce que tu dis est faux.
Ouais. Mais s'ils te répondent, c'est qu'ils ont compris déjà ce que tu voulais leur dire.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment le plus important. Quand tu apprends une langue, c'est pour communiquer, c'est pour faire passer un message et réussir à comprendre la personne en face. Mais c'est vrai que c'est bien quand même, de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui te dit « Attention, là on utilise plutôt ce mot que celui-là, et petit à petit tu t'améliores. »
Ouais. Et est-ce que tu as eu envie justement de compléter peut-être avec, avec un professeur qui aurait pu justement te corriger quand tu faisais des fautes ?
Alors, en fait, pendant un long moment, je n'ai fait que ma méthode, jusqu'au jour où j'ai découvert ce qu'on appelle en japonais les « gengo kokan ». Je t'avouerai qu'en français, comment tu dis ? Enfin, c'est « language exchange ».
Ah oui, oui, les échanges linguistiques.
Ouais, voilà, les échanges linguistiques. Et le jour où j'ai découvert ces « gengo kokan », ça m'a vraiment permis d'aller plus loin dans le sens où il y avait quelqu'un pour vraiment m'aider à restructurer les phrases. Par contre, si j'avais dû refaire tout ça maintenant, j'aurais utilisé la même méthode, mais j'aurais en complément sollicité un professeur pour vraiment être corrigé sur des points de grammaire.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on te proposait des cours avec un groupe, mais dans ce groupe, finalement, chaque personne avait un niveau très différent, avait des points à travailler très différents, donc ça ne te correspondait pas, en fait.
Ah bah, complètement. En fait, si tu veux, moi, au bout de 3 mois, avec cette méthode, je pouvais avoir des conversations en japonais. C'était pas toujours trop élaboré, on parlait pas de tout, mais je pouvais me faire comprendre, je pouvais commencer à comprendre ce qu'on me racontait, et du coup, je pouvais m'améliorer au quotidien.
Super. Cette méthode que tu avais développée pour toi, pour apprendre le japonais, comment tu l'as transposée pour enseigner le français ?
La première chose à comprendre, c'est ce que signifie « mankai ». Mankai, c'est un mot japonais qui signifie pleine floraison. On parle surtout des cerisiers. Au Japon, les cerisiers en fleurs sont très célèbres et tous les ans, les gens se réunissent sous les cerisiers pour faire une grande fête. Donc, cette notion de mankai a vraiment une place prédominante au Japon. En la transposant à un élève, on imagine que l'élève est un arbre. Et si tu regardes dans la nature, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'arbres différents. Et chaque arbre a des besoins spécifiques et uniques. Tu ne vas pas planter un cactus en Antarctique, par exemple.
Mmh.
Si je mets un élève à un endroit avec une méthode spécifique qui ne lui convient pas, l'élève ne pourra pas faire de progrès. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre les besoins et les attentes.
Donc, c'est vraiment très personnalisé, en fait.
C'est ça, c'est complètement personnalisé. En fait, un élève peut très bien avoir envie d'apprendre le français parce qu'il a envie de lire des vieux romans, parce qu'il a envie de chanter en français, puisque son rêve, c'est d'aller dans un musée et de comprendre. Mmh. On a tous des besoins et des attentes différents. Donc, en partant de ce constat, la question, c'était de se dire, comment est-ce que je peux faire pour mettre l'élève au centre de la méthode d'apprentissage plutôt que de mettre la méthode d'apprentissage au centre des élèves? Pour ça, on n'y échappe pas. Dans tous les cas, il faut une base commune, une base de prononciation. C'est des phrases simples et structurées avec quelques mots de liaison. Savoir comment poser une question, quelques temps, et savoir exprimer les émotions. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle le tronc commun du français. Une fois qu'un élève a ces bases-là, on peut commencer à individualiser la méthode d'apprentissage pour pouvoir faire pousser les branches de chaque élève de manière différente. En fait, c'est vraiment une méthode de simplification d'apprentissage. Il y a quelque chose qui est, pour moi, essentiel dans l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment la pratique. Mmh. L'expression orale, c'est essentiel, puisque en faisant l'effort d'essayer de communiquer, on conditionne son cerveau à répéter ses mots, ses intonations, et en le conditionnant de cette manière, on va réussir à lui faire prendre une habitude de parole. Donc, avec chaque élève, je fais quelque chose de simple, c'est qu'au début de chaque leçon, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je leur pose juste une question simple. Ça les force vraiment à réfléchir de manière structurée, toujours en gardant cette notion de faire des phrases simples, Aurélie. C'est très important. Au fur et à mesure, tu vois l'élève qui, justement, commence à donner de plus en plus de détails. Et c'est très important de pouvoir lui donner des synonymes quand il essaye d'expliquer quelque chose. Puisqu'il n'y a rien de plus compliqué pour quelqu'un qui apprend une langue que de se retrouver à essayer d'expliquer quelque chose et d'être avec un gros trou. Le tout, c'est de pouvoir aider cette personne à pouvoir contourner le problème.
De l'aider à comprendre que peut-être qu'elle ne sait pas dire un mot français, par exemple, mais qu'elle connaît d'autres mots pour expliquer, en fait, cette chose.
C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Voilà. En fait, à partir du moment où on commence à apprendre une langue, on ne peut pas se tromper. On est déjà gagnant. À partir du moment où on apprend un mot, c'est un mot qu'on va pouvoir utiliser à l'étranger avec une personne qui ne parle pas notre langue natale. Et c'est déjà une victoire en soi. Donc, c'est très important de réussir à oublier cette notion de « j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de déranger la personne en essayant de parler ». Ce côté psychologique, il est vraiment oui. super important.
Tu as raison qu'il y a une dimension un petit peu psychologique, c'est vrai, parce que une question qui m'intéresse souvent, moi, quand je discute de ces sujets avec mes invités, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont peur de parler.
En fait, il ne faut pas laisser la place au doute. Forcément, on fera des erreurs et ce n'est pas un problème. En fait, le tout, c'est aussi de comprendre pourquoi la personne peut avoir peur. Tu vois, une personne, par exemple, très introvertie, qui a peur déjà de parler dans sa propre langue. Ça paraît logique que cette personne puisse avoir peur de s'exprimer également dans une autre langue. Donc le tout, ça va vraiment être de lui donner ses bases simples. À partir du moment où on comprend que quelque chose est simple, tu vois, cette notion de faire une phrase très simple, sujet, verbe, complément. Si tu sais en faire une, si tu sais en faire deux, si tu sais en faire trois, eh bien tu les mets bout à bout. Et comme tu maîtrises ces petites phrases, tu as beaucoup moins de chances de te tromper. Il y a quelque chose qui est très très utile et que j'enseigne quasiment au tout début. C'est des conversation fillers. Je vais te raconter une petite anecdote. Je suis étudiant au Japon et du coup, je me dis, je vais essayer d'enseigner le français à des Japonais. J'ai une amie, hein, Lisa. Je la contacte, je sais qu'elle est intéressée par le français. Je commence à lui enseigner quelques mots. Lisa, c'est une super élève, elle retient très vite. Donc à la fin, je lui dis, on a vu ça, ça, ça aujourd'hui. Essaye de te présenter en français, s'il te plaît. Et donc Lisa commence à se présenter et elle fait, je m'appelle Lisa. Eto! Et là, je m'arrête. Je fais, oh là! Qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle continue. Et puis, elle fait, j'ai 20. Ah, nantake. Ah, so-so! Je suis là, ah, d'accord. Donc, en fait, elle utilise toutes ces petites particules qu'elle connaît en japonais pour meubler une conversation. Et elle les transpose en français. Et là, je me suis dit de suite, ah ouais, mais ça, c'est essentiel de l'enseigner. Parce que déjà, ça va conditionner le cerveau de l'élève à éliminer sa langue natale lors de sa réflexion en français.
Et donc, si il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent te contacter pour avoir des conseils plus personnalisés ou pour commencer leur apprentissage du français avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Alors, ils peuvent me contacter soit via Instagram en tapant Bankai Your French ou alors en m'envoyant un petit mail à l'adresse bankaiyourfrench@gmail.com.
Ok, donc moi je vais remettre tout ça bien sûr sur mon site dans la transcription, donc les personnes qui veulent te contacter peuvent retrouver toutes ces informations sur mon site.
Eh bien c'est super.
Ok, alors merci beaucoup d'avoir partagé cette méthode avec nous. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de toi. Je crois que tu as une grande passion dans la vie. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors, je t'avouerai que j'ai deux grandes passions essentielles.
Ouais.
La première, je ne sais pas comment les classifier, mais je vais nommer les deux. Il y a le cyclisme et la nourriture.
Ah, ok, super. Ah, ouais.
J'adore les deux.
Tu aimes manger ou tu aimes cuisiner?
Ah, j'aime tout.
Okay.
Tout ce qui a un rapport avec la nourriture. Et le cyclisme, c'est vraiment une passion que j'ai depuis ma plus tendre enfance. En fait, quand j'avais 7-8 ans, mon grand-père m'amenait sur la piste cyclable qui était juste à côté de notre maison et on partait faire 80-90 km alors que j'étais tout petit. Hein. j'avais du mal à pédaler et à le suivre et ça m'est resté. Et en France, on a vraiment un événement mondial qui s'appelle le Tour de France. Le Tour de France fait vraiment partie du patrimoine culturel français. Il faut savoir que cette course, elle date d'il y a plus de 100 ans, puisque la première édition du Tour de France a eu lieu en 1903. Et les coureurs cyclistes, à l'époque, c'était de véritables guerriers. Sur le premier Tour de France, en 1903, sur des vélos qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, avec une seule vitesse, avec des routes en cailloux. Ils sont partis de Paris, puis sont allés à Lyon. Première étape.
D'accord.
De Lyon, ils sont allés à Marseille. Deuxième étape. De Marseille, ils sont allés à Toulouse. De là, ils sont allés à Bordeaux, puis à Nantes et à Paris. Il n'y avait que 6 étapes. Le premier Tour de France a été couru à 25,7 km/h de moyenne. Sur les machines de l'époque et sur les sentiers de l'époque, c'est une prouesse incroyable. J'aimerais juste te parler d'une toute petite anecdote est ma préférée sur le Tour de France. Pour ça, il faut aller en 1913. En 1913, le Tour faisait 5400 km. C'était un vrai Tour de France. C'est monstrueux, c'est le double de ce que font les coureurs aujourd'hui. Dans cette édition, un coureur, Eugène Christophe, a cassé sa fourche dans la descente du Tourmalet. La fourche, c'est la petite partie à l'avant qui ressemble un petit peu à une fourchette et qui se met au-dessus de la roue. La fourche, du coup, il l'a cassée, il a continué à pied jusqu'à une forge et il a décidé de la réparer lui-même, puisqu'à cette époque, on n'avait pas le droit d'être assisté. Et il a terminé la course. Il est arrivé avec des heures de retard, mais c'est pas grave, ça a vraiment marqué sa légende, d'autant plus que ce même homme, Eugène Christophe, a été le tout premier porteur du maillot jaune de l'histoire.
Incroyable. C'est vrai que les choses ont beaucoup changé. C'était plus, à l'époque, peut-être réussir à se débrouiller, trouver des solutions par soi-même. Il n'y avait pas, comme tu le dis, toute une équipe derrière soi pour nous aider.
Ah oui, c'était pas du tout les mêmes conditions.
Ouais.
Et le Tour de France a eu lieu tous les ans depuis 1903, à la même époque, en juillet, sauf pendant les deux guerres mondiales. Et cette année.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est annulé donc cette année.
Alors, il n'est pas annulé, il est décalé au 29 août. Mais d'habitude, le départ est toujours en juillet.
Oui.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'historique, ce qu'on vit cette année.
Ok, et donc toi, tu continues aujourd'hui donc, à faire beaucoup de vélo, comme te l'avait enseigné ton grand-père à l'époque.
C'est ça, je l'ai fait juste beaucoup plus rapidement. Mais ouais, c'est toujours ma passion et c'est mon meilleur moyen de locomotion.
Ouais, ah bah c'est cool, ouais. C'est bon pour la santé, pour l'environnement, pour l'esprit, il n'y a que des avantages. Ok, super, bah écoute, c'est super intéressant. Encore une fois, un grand merci vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous, sur ta méthode, sur ta passion.
Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment un super moment de pouvoir parler et échanger avec toi. C'est bien de pouvoir se retrouver entre professeurs pour pouvoir échanger et pouvoir communiquer notre passion. Surtout si on peut aider en parlant simplement, en essayant de communiquer des choses simples et positives. Les élèves qui essayent d'apprendre le français, eh bien alors on aura réussi ce qu'on a voulu entreprendre, tout simplement. Donc bravo à toi pour ton podcast et merci encore pour l'invitation.
Super, bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à très bientôt.
Salut Aurélie.
Salut. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisocloque.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Tous les jours, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir de lire vos commentaires. Comme je le dis souvent, ce sont vos commentaires qui me motivent et qui m'encouragent à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez envie que je fasse une interview avec un autre professeur de français que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le faire. Allez, à bientôt les amis !